Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le haut commissaire à la réforme des retraites. Vos questions, je les imagine, je les sais d'ailleurs, nombreuses au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Jean-Paul Delevoye, bonjour.
Bonjour.
Les premiers axes de la réforme des retraites, vous les avez dévoilés hier. Le sujet est extrêmement technique et on va évidemment prendre le temps de l'explorer ensemble. Mais pour commencer, dites-nous en 30 secondes, quel est l'esprit de cette réforme, qu'on comprenne bien ce qui est en train de se jouer en ce moment.
Vous voyez bien que nos concitoyens comprennent que le système actuel n'est pas adapté, fragile, injuste, inégal. Et on revient en fin de compte à l'histoire, c'est-à-dire qu'en 1945, communistes et gaullistes veulent l'universalité des droits et ils proposent l'universalité des régimes. Et pour des raisons très très naturelles, la CGT dit non, je vais y perdre, les agriculteurs, les commerçants ne veulent pas y aller. Et aujourd'hui, nous avons donc un système basé sur des catégories professionnelles, 42 systèmes de retraite par catégorie professionnelle. Et la question de fond, c'est dans un moment où le futur est plein d'aléas, comment va évoluer le salariat? Quel sera l'avenir des professions? Les métiers vont changer à toute vitesse. Dire à nos jeunes, l'avenir de votre retraite dépendra de l'avenir de votre profession, est aujourd'hui irresponsable. Et la question qui est très clairement posée, c'est quel est le système que nous devons bâtir pour collectivement réagir aux aléas du futur? Et vous avez deux réponses. Soit le système anglo-saxon, chacun pour soi à l'assurance, ou soit d'embarquer le maximum de salariés avec des mêmes règles pour que collectivement et solidairement nous puissions épouser les aléas de la vie, chômage, handicap, maladie, retraite. Et c'est un choix qui est très important, notamment à un moment où les élections européennes vont très clairement porter dans quel type de société voulons-nous vivre.
Mais vous avez vous-même déjà travaillé à une réforme des retraites, c'était avec François Fillon, c'était en 2003. Aujourd'hui, le système est quasiment à l'équilibre. Pourquoi y toucher? Pourquoi est-ce une urgence, là, de réformer encore les retraites?
Il y a effectivement cette question, pourquoi est-ce nécessaire de changer? Moi, mes amis européens, quand ils me rencontrent, me disent « Mais attends, le niveau des retraités est le meilleur d'Europe, le système est proche de l'équilibre, pourquoi changer ?» Pourquoi changer? Pour exactement les raisons que je viens de vous dire. Il n'est pas du tout adapté au XXIe siècle. Personne ne peut dire que les professions ne vont pas évoluer. On me dit que dans les facs, les étudiants en médecine disent « On veut être plus salariés que médecins ». C'est la fin du système de retraite des médecins libéraux. Les agriculteurs en 45 ont dit on n'y va pas du tout. Ils passent de 43% de la population à 3%. Aujourd'hui, la retraite agricole est payée à 84% par l'impôt. Et enfin, solidairement, si la solidarité est enfermée dans les professions, demain, le moindre aléa, ce sera un conflit entre les professions. Ah non, je veux pas qu'on touche aux fonctionnaires. Ah, je ne veux pas qu'on touche aux journalistes. Je ne veux pas. Il faut embarquer aujourd'hui la totalité de la société française et de renforcer la cohésion intergénérationnelle. Alors et c'est probablement un des sujets les plus importants, de retrouver la confiance. Et je terminerai simplement là-dessus. Au moment où le système est proche de l'équilibre, grâce à toutes les réformes qui ont été faites par les gouvernements précédents, 60 milliards d'économies. Mais ça a été fait à chaque fois dans une ambiance anxiogène. Si on ne fait pas la réforme, le système est mort. Résultat, les jeunes ne croient absolument plus au système. Les retraités, les futurs retraités pensent qu'ils vont perdre plus. Et donc, et tous les sondages montrent que les Françaises et les Français, aujourd'hui, ne sont pas satisfaits du système actuel.
Alors allons-y, les pensions sont calculées aujourd'hui dans le privé sur les 25 meilleures années, dans le public sur les 6 derniers mois. Le passage à un système à point va lisser les carrières, va lisser ces modes de calcul. Ça ne sera plus les 25 meilleurs ou les 6 derniers, mais les points tout au long de la vie. Est-ce que le montant des pensions va baisser, Jean-Paul Delevoye?
J'ai entendu cet argument, et même j'ai entendu un argument que 90% des pensions vont baisser.
Celui de la CGT.
Ça veut dire qu'il y a 10% qui vont gagner, mais elles vont doubler leurs pensions. C'est complètement irréaliste. J'attends d'ailleurs la preuve de l'équation. Le Conseil d'orientation des retraites, ça n'est pas moi, dit que le système actuel favorise les carrières ascendantes et pénalise les carrières en rupture et les petites carrières. D'ailleurs, on le voit bien, notre système, dans l'écart des salaires, c'est de 1 à 6. L'écart des retraites, s'il n'y avait pas de système de solidarité, c'est de 1 à 7. il arrive à 1 à 4, mais pas forcément en faveur des petites retraites.
Mais donc vous dites que la CGT se trompe dans ses calculs.
Bien sûr, non, mais je peux comprendre les arguments syndicaux, mais la méthode que nous avons utilisée...
En même temps, c'est d'assez bon sens entre les 25 meilleurs, les 6 derniers et des points tout au long de la vie.
La Caisse nationale des assurances vieillesse a fait une étude et a essayé de regarder ce qu'allait donner le passage à un calcul de toute la retraite. Eh bien, on s'aperçoit que cette argumentation est fausse et qu'elle peut au contraire avantager les parcours actuels. Pourquoi ? Parce que le système à points fait qu'aujourd'hui, contrairement au système d'annuité, vous n'avez pas des droits perdus. Chaque salaire donnera des points et chaque point augmentera votre pension.
Les femmes qui ont souvent des salaires moins élevés, qui ont souvent des carrières avec du temps partiel, qui doivent s'arrêter parfois pour les enfants, vous allez prendre en compte avec le nouveau système toutes les années, donc les mauvaises années également. Mathématiquement, les femmes ne seront-elles pas les grandes perdantes de cette réforme ?
Et je ne crois pas, parce qu'en fin de compte, la retraite, c'est le reflet de votre carrière. Ça, c'est quelque chose qui est juste. Si vous avez une belle carrière, vous avez une belle retraite. Si vous avez une moins belle carrière, vous avez une moins belle retraite. Par contre, l'étage de solidarité sur lequel on travaille, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'étais rattaché à Madame Buzyn, fait qu'effectivement, nous sommes en train de regarder comment, pour les enfants par exemple, pour les enfants, nous avons déjà indiqué que nous souhaitions donner des points dès le premier enfant. Aujourd'hui, une femme qui arrive à taux plein, avec des annuités, eh bien, ces annuités ne servent à rien, n'augmentent pas sa retraite. Si nous avons aujourd'hui des points accordés à chaque enfant, à chaque fois, c'est une augmentation de la pension. Si sur les temps partiels, aujourd'hui, vous avez raison, 20% des femmes vont jusqu'à 67 ans, qui est l'âge de la décote. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas beaucoup de retraite et elles sont obligées d'aller jusque-là. Si nous arrivons à faire en sorte qu'à chaque parcours, le stage, l'apprentissage, les interruptions d'activité, nous faisons en sorte qu'elles ne soient pas pénalisées comme si elles restaient en activité lorsqu'elles ont, elles font des enfants, parce que ça concerne l'intérêt de la nation, ça améliore. Donc le vrai débat aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que on est en train d'alimenter les peurs sur les conséquences et pas l'enthousiasme sur les objectifs. Si on arrive à bâtir un système qui fait que chacun se sente concerné avec l'autre, avec les mêmes règles, même carrière, même taux de cotisation, même revenu, même retraite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et les Françaises et les Français se disent « Ah bah oui, mais les fonctionnaires sont avantagés », ce qui n'est pas toujours le cas. Quand vous parlez des fonctionnaires, leurs primes ne sont pas intégrées. Donc quand vous avez un fonctionnaire qui n'a pas beaucoup de primes, évidemment, ça ne va pas bouger. Et quand il y a un fonctionnaire qui a beaucoup de primes, il peut tomber avec des taux de rendement qui sont presque 50% de son revenu.
Les fonctionnaires, donc tout ça, ont raison de s'inquiéter. Puisqu'aujourd'hui, c'est les 6 derniers mois qui sont pris en compte pour les fonctionnaires, qui sont en général là où on touche le mieux. Si vous prenez en compte les 40 ans de carrière, forcément, c'est mathématique là aussi, ça va baisser.
Non. Eh bien, votre raisonnement pourrait paraître rationnel, mais il faut intégrer la notion des primes. Si vous avez les 6 derniers mois basés sur votre salaire sans primes, et si vous avez 30 ou 40% de primes ?
Et si j'ai pas de primes ?
Si vous n'avez pas
de primes ? Je suis perdante.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que vous vous anticipez ce que nous estimons comme une interpellation et comment corriger cela. À partir du moment où nous changeons de système et où nous basons effectivement l'intégration des primes, nous allons avoir des fonctionnaires qui risquent d'être un peu pénalisés parce que, évidemment, ils n'ont pas de primes par rapport à d'autres. La question politique aujourd'hui, c'est comment profiter de cette opportunité qu'offre le système pour éventuellement mettre en place une politique de rémunération. L'hypocrisie, c'est quoi ? On a dit aux fonctionnaires, on va vous sous-payer pendant toute votre carrière, on donne un coup de pouce et on vous permettra d'avoir une retraite payée par tous les Français supérieurs. Il faut arrêter cette hypocrisie. On doit recruter à un niveau normal, payer les fonctionnaires normalement et intégrer leurs primes comme les salariés du privé. C'est ça l'opportunité de ce système. Vous êtes basé, les privés payent sur la totalité de leur salaire, les fonctionnaires peuvent payer sur la totalité de leur rémunération.
Jean-Paul Delevoye, les Échos ont été les premiers à indiquer qu'il y aurait un âge pivot à 63 ans, en deçà duquel les pensions de retraite seront plus faibles. Alors expliquez-nous, l'âge de départ légal à la retraite, 62 ans, devient un âge théorique dans cette réforme ? Et ce sera 63, 4, 5, 6 ?
Le système à points...
En fonction des points de chacun ?
Le système à points, normalement, devrait éviter toute référence d'âge. Puisque, tous les ans, quel que soit votre revenu, quelle que soit votre profession, et c'est ça le gros avantage, en tant que journaliste, vous pouvez faire 5, 6 ou 7 métiers. Aujourd'hui, vous êtes obligé de changer 5, 6 ou 7 fois de caisse. Là, à chaque fois, vous aurez une addition de points. Vous aurez donc un relevé de points par an. Et ensuite, vous allez, à un moment donné, décider d'arbitrer vous-même si vous avez suffisamment de retraite, de pouvoir partir ou pas. Mais il nous a été très clairement indiqué que si l'on ne mettait pas un plancher d'âge, un âge minimum. Il n'y a pas d'âge légal. Un âge minimum. Un certain nombre de personnes, fatiguées, usées, risqueraient de partir plus tôt avec une retraite très faible sur le minimum de pension. Ça n'est pas l'objet de la société que nous voulons. Et donc, on a décidé de mettre en place un âge minimum de 62 ans. Les journalistes peuvent éventuellement susciter toute une série de débats. Nous n'avons jamais dit hier, nous n'avons jamais parlé d'âge pivot.
Il n'y en aura pas.
Nous avons engagé aujourd'hui sur un schéma qui est très clairement présenté hier. Quel est le schéma que nous visons ? Nous avons mis toute une série de principes que peut-être vous allez évoquer. À partir de là, nous engageons à peu près 6 mois de discussion sur les conditions d'âge, puisque le système universel n'est pas un système unique. Il y a aujourd'hui des catégories actives, les militaires, les forces de sécurité qui partent un peu plus tôt. Comment intégrer cela dans un régime universel ? Nous avons à jouer sur la gouvernance, parce que le vrai défi, c'est la confiance. Comment on redonne confiance aux jeunes qu'ils ont intérêt à cotiser pour leurs aînés ? Et comment faire en sorte que les retraités s'intéressent
à la vie de leurs enfants ? Mais la question « jusqu'à quand vais-je travailler » est une question légitime, Jean-Paul Delevoye, et il semble y avoir un flou et donc potentiellement un loup.
Non, non, alors, il n'y a pas de flou. L'âge minimum, c'est à 62 ans.
Mais l'âge réel ?
Mais l'âge réel, c'est celui...
Est-ce que le choix, c'est partir avec une petite pension ou travailler très tard pour en avoir une décente ?
Eh bien, ce sera votre choix personnel. Et l'on voit d'ailleurs déjà aujourd'hui, avec les lois précédentes, contrairement à ce que les gens croient sur les régimes spéciaux, la convergence des durées de cotisation est forte. Et l'on voit très naturellement l'âge de départ à la retraite reculer.
Mais aujourd'hui, on est à 61... On peut estimer qu'on n'aura jamais assez de points, au fond, pour avoir une retraite décente. Et donc, on se dit, allez, je travaille encore un an. Et puis encore un an pour avoir encore un peu de points. Pardon de citer Pascal Pavageau, dans ces cas-là, la retraite à points, c'est le travail sans fin.
Si le système à points est pénalisant par rapport au système d'annuité, c'est exactement le contraire. Aujourd'hui, il y a des moments où vous gagnez des annuités qui ne vous servent pas à augmenter votre pension. Aujourd'hui, tout point donnera une augmentation de pension. Donc le système à points améliorera par rapport à l'annuité le niveau de pension. Ensuite, c'est vous qui faites votre arbitrage. C'est votre responsabilité. Or, les citoyens demandent aujourd'hui de dire « on ne veut plus de contraintes qui nous imposent de partir à tel âge ou tel âge, on veut avoir la faculté de choisir le moment où nous décidons, parce que mon conjoint est parti en retraite, j'ai envie de partir en retraite avec lui, parce que je me sens épanoui dans mon travail et que je me sens la faculté de pouvoir choisir ». Et l'on a bien vu dans toutes les analyses que nous avons faites à quel point ce point est très revendiqué par nos concitoyens.
Pourquoi le calendrier, Jean-Paul Delevoye, de la réforme a-t-il bougé ? On parle désormais de 2019, après les élections européennes. Vous redoutiez l'échéance électorale ?
Pas du tout. Il ne vous a pas échappé qu'au mois de juin-juillet, le calendrier parlementaire a été un peu bousculé. Nous devions démarrer en septembre. La conclusion, les bilans. En septembre, le mois de septembre a été consacré hôpital, pauvreté, chômage. Et nous souhaitions à chaque fois réserver, le président de la République et le Premier ministre, réserver à chaque fois un moment pour les retraites, car c'est un projet de société majeur. Nous avons donc décidé octobre. Et l'échéance que nous nous étions fixés de faire nos recommandations en janvier-février, sur lesquelles nous avions déjà alerté que c'était hyper tendu compte tenu de la complexité des sujets que nous avons à traiter avec les partenaires sociaux. Nous n'étions pas opposés, et même plutôt demandeurs, de dire approfondir la discussion avec nos partenaires sociaux mériterait que l'on ait quelques mois de plus. Nous arrivons en mars-avril.
Donc rien de politicien, pas de calcul politicien dans ce...
En tout cas, de mon côté, moi je me suis réjoui du dialogue extrêmement intelligent, nourri avec les citoyens, dans les ateliers citoyens, avec les observateurs universitaires, etc., et avec les partenaires sociaux. Et ceci a abouti à une présentation hier qui a plutôt été saluée par les uns et par les autres.
Oui, force est de constater que les réactions, en tout cas dans un premier temps, des organisations syndicales que vous avez reçues n'étaient pas c'était pas on va mettre le feu, etc. C'était plutôt des réactions modérées.
Parce que pour moi, c'est pas une surprise. C'est un enjeu de société. Je veux insister là-dessus. La campagne européenne sera un moment pour que le monde entier comprenne qu'on peut être performant sur le plan collectif en ayant une politique de solidarité collective. Or, le monde anglo-saxon est aujourd'hui en train de nous dire « prenez des assurances ». Moi, je suis convaincu que si les jeunes et les retraités se sentent responsables et unis dans un pacte de solidarité intergénérationnelle, c'est quelque chose d'important. Mais ça veut dire aussi, Madame Salamé, qu'il faut qu'on retrouve le sens de l'impôt. et de la cotisation. Il faut dire à nos concitoyens, mais quelle chance vous avez d'amener vos enfants à l'école, parce qu'il y a des gens qui payent pour l'école, pour vous. Quelle chance vous avez d'être soigné gratuitement. Mais il faut aussi ressortir le prix de la solidarité. Quelle chance d'être pris en charge, etc. Et donc ce sens de la responsabilité est un acte majeur qui est porté par un projet de société duquel découle notre projet universel des retraites qui correspond à l'esprit, à l'âme du Conseil national de la Résistance et de 45.
Allez, on va au standard de France Inter. Bonjour Sylvie, vous avez la parole, soyez la bienvenue.
Bonjour France Inter, bonjour.
Bonjour madame.
Je suis professeure de lycée professionnel depuis 27 ans en Alsace et j'ai 4 enfants qui sont encore étudiants. J'ai travaillé en temps partiel pour m'occuper de mes enfants pendant une dizaine d'années en début de carrière. Et quand j'ai commencé dans la fonction publique, le contrat était que effectivement j'étais moins payée en début de carrière, mais que je partais en retraite avec les 6 derniers mois qui correspondaient à des évolutions de carrière lentes, mais qui étaient quand même satisfaisantes dans la mesure où j'aurais une retraite correcte. Ma question est comment le nouveau système pourra-t-il me garantir une retraite équivalente à celle pour laquelle j'ai embrassé la fonction publique ?
Merci Sylvie pour cette question. Jean-Paul Delevoye.
Ça, c'est effectivement l'opportunité qu'offre le système universel de pouvoir refaire un contrat avec les fonctionnaires. Madame a totalement raison. Par contre, je ne sais pas si c'est le cas, très souvent des fonctionnaires, prenant un temps partiel pour s'occuper de leurs enfants, pensaient que la garantie des 6 derniers mois était une garantie totale. Et ils découvraient quelquefois que la proratisation, c'est un terme un peu compliqué, c'est qu'avec un temps partiel, comme ils n'avaient pas la durée totale, eh bien, ils n'avaient pas forcément la retraite qui correspondait aux 6 derniers mois. Ce que nous allons faire dans les 6 prochains mois, nous allons effectivement analyser filière par filière, catégorie professionnelle, quelle est la transition, quelles sont les conséquences de sa transition. Sur le monde de l'enseignement, il faut que les choses soient claires. On verra que les enseignants sont peut-être pas suffisamment rémunérés et que probablement il convient de réfléchir à une politique salariale qui soit favorable.
Mais là, la question de Madame, les règles vont-elles être changées ? On m'a dit que vais-je y perdre ?
Eh bien, nous aurons à proposer la simulation d'une comparaison qui sera possible entre l'ancien système et le nouveau, et nous ferons en sorte de garantir le niveau des retraites.
Jean-Claude est au standard. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour à tous.
On vous écoute.
Bonjour. Un petit préambule.
Bonjour, monsieur.
Déjà. Je suis agriculteur, donc on est très sensible aussi, le monde agricole, aux problèmes de climat et d'environnement. Est-ce que dans le 7-9, on a de très bons chroniqueurs politique étrangère, économie, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quotidiennement, pour sensibiliser les gens, un chroniqueur sur le climat et l'environnement, ce qui serait, me semble-t-il, intéressant, puisque c'est vraiment un problème pour l'humanité.
Voilà, donc cette question étant posée, en avez-vous une sur les retraites, Jean-Claude ?
Oui, donc je suis agriculteur, je vais faire un peu de corporatisme. Est-ce qu'il est acceptable ? Bon, on est d'autres aussi, mais entre autres le monde agricole, le petit monde rural agricole qui s'appauvrit, d'avoir, pour les retraités, d'avoir des retraites de moins de 1000 euros. Quand on voit qu'il y a eu l'ISF, qu'on a fait des économies, enfin, qu'on a supprimé une partie de l'ISF, ce qui est gagné par l'ISF aurait pu être versé pour au moins que les petites retraites plafonnent, et un plancher à 1000 euros. C'est inacceptable dans notre société actuellement.
Et qu'elle soit décente pour les agriculteurs. Alors, on transmet la question, Jean-Claude, à Jean-Paul Delevoye sur les agriculteurs en tant que tels et le niveau de leur retraite.
Monsieur, bonjour. D'abord, la retraite est le reflet de votre carrière. Et c'est vrai que votre profession est caractérisée par des faibles revenus, souvent largement inférieurs à 40 000 euros par an, avec de faibles cotisations qui vous amènent à de faibles retraites. La question que vous posez, est-ce que la retraite a vocation à corriger les dysfonctionnements du monde économique ? Si les salaires entre les hommes et les femmes ne sont pas réglés dans le monde économique, nous retrouverons au moment des retraites des écarts entre les retraites et les femmes. Et donc, nous cherchons à corriger cela. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement sur des filets de sécurité. C'est-à-dire quel est le minimum vieillesse ou le minimum de pension que l'on doit mettre en place pour garantir à des hommes et des femmes qui, comme vous, travaillent dur, avec de faibles revenus, puissent avoir un minimum de pension décent.
C'est combien, selon vous ?
L'ASPA va passer à 903. Nous sommes dans le système actuel. L'ASPA est à 903 euros, et on voit bien que le minimum de pension, c'est 600, peut monter à 1200 si on cumule 600 et 1200. Et c'est une des questions politiques les plus compliquées que nous traitons actuellement avec les partenaires sociaux.
La CGT dit c'est 1200 minimum.
Non, mais la question aujourd'hui, c'est jusqu'où doit-on monter le minimum pour éviter la précarité comme monsieur, et jusqu'où faut-il ne pas monter pour désinciter le travail et favoriser le travail au noir. C'est-à-dire que si quelqu'un, la référence, c'est celui qui travaille au SMIG toute sa vie, s'il a un niveau de retraite qui est à peine supérieur à un minimum de pension, n'a aucun intérêt à travailler. Et donc c'est un débat qui est sur la table, qui a très clairement été posé depuis le début, que j'ai réaffirmé hier, et c'est le sujet pour lequel nous allons travailler dans les 6 mois
qui viennent. Et votre intime conviction, vous, qui travaillez sur le sujet depuis des mois?
Alors, je vais vous dire, moi je ne parle que quand je sais. Et je n'avance pas des slogans, nous allons faire des simulations. Moi j'ai fait des simulations pour voir un peu comment remonter les petites salaires.
Alors,
j'avais une simulation qui arrivait à ce que 40% des retraités soient au minimum vieillesse. C'est pas acceptable. Donc ça veut dire que nous avons la faculté aujourd'hui, avec le temps que nous a accordé le président de la République, de dire, regardons ce que donne. Alors les syndicats nous disent 1200 euros, un SMIC. Regardons ce que ça donne comme conséquence. Et on s'aperçoit quelquefois que des slogans sympathiques ont des conséquences qui ne sont pas aussi sympathiques.
Sur la méthode, Jean-Paul Delevoye, vous avez fait un très gros travail préparatoire avec les partenaires sociaux. Ce travail va se poursuivre maintenant. FO, la CGT, la CFDT ont dit qu'il y avait des lignes rouges, notamment sur l'âge de départ à la retraite. Si la négociation, la concertation, disons, échoue, est-ce que vous passerez en force ?
Nous avons très clairement indiqué dès le départ que nous avons une opportunité de tout revisiter. C'est-à-dire que toutes les questions sont sur la table pour voir si aujourd'hui un certain nombre de solidarités au sein de la retraite sont pertinentes ou pas, et si l'on ne peut pas créer d'autres solidarités, je pense notamment avec Agnès Buzyn sur les aidants familiaux. La seconde, c'est qu'il est hors de question de ne pas être responsable sur le plan du budget. Donc 14% du PIB, c'est un plafond. Et nous serons très exigeants sur la consommation.
Sur la méthode.
Troisième élément, sur la méthode, il a été très clairement précisé dès le départ qu'à un moment, in fine, quand je ferai mes recommandations, c'est le décideur politique qui décidera. Même si aujourd'hui, ce que j'ai présenté hier a été évidemment consolidé par les arbitrages, par des soutiens politiques. Et donc, nous construisons, nous proposons, et ensuite, il y aura le décideur politique.
Qui pourra donc passer en force s'il n'y a pas...
Non, pas passer en force.
Consensus choisir. Tous les partenaires.
C'est pas à vous que je vais vous dire que la démocratie, c'est un choix. Et qu'une de mes préoccupations, c'est qu'une démocratie dans laquelle les citoyens se taisent est une démocratie fragile. Nous souhaitons au contraire redonner la voix aux partenaires, faire en sorte de réhabiliter le syndicalisme, qui aujourd'hui prouve, par la méthode que nous avons utilisée, son intelligence et sa capacité de proposition. De réhabiliter le politique pour qu'il explique ses choix. Et lorsque je ferai mes recommandations, j'assumerai mes choix.
Jean-Paul Delevoye, dernière question. Est-ce que c'est pas plus simple, plus facile, surtout en ce moment, d'être haut-commissaire que d'être ministre ? Est-ce que vous rentrez au gouvernement ?
Alors, c'est vraiment pas ma préoccupation. Moi, je suis consacré à 300% de mon temps avec une équipe formidable, avec les partenaires sociaux. Je peux vous dire que la situation du haut-commissaire, c'était le choix d'ailleurs du président et du Premier ministre, c'est de faire en sorte de me consacrer qu'à cette...
Donc, s'il vous appelle en vous disant « j'ai besoin de toi », c'est non.
Attendez, lorsque on sert le pays, on le sert. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je le sers le plus efficacement possible en étant là où je suis.
Vous avez 71 ans, voilà. Vous allez la prendre quand, votre retraite ?
Moi, j'ai ma retraite et j'ai demandé à ce que l'on déduise du montant du salaire du haut-commissaire le montant de ma retraite.
Oui, mais quand est-ce que vous partez réellement ?
Ben, si vous voulez, je suis dans la situation du cumul emploi-retraite. Maintenant, est-ce que c'est un souhait de votre part de me voir partir ?
Non, c'est pas une question.
Vous savez, il y a 500 000 retraités actuellement qui cumulent emploi-retraite. Et c'est un sujet intéressant parce que moi, je reste convaincu que cumul emploi-retraite, on doit continuer à faire des cotisations à fond perdu, ce que je suis en train de faire, parce que ça alimente la solidarité. D'autres souhaiteraient que pour les petites retraites, on puisse peut-être envisager une acquisition de points pour la pension. C'est un vrai débat. Mais moi, j'assume totalement le fait que cumul emploi-retraite, j'assume. J'ai très clairement, en termes d'éthique, demander à ce qu'on retire le montant de ma retraite parce que je trouvais ça pas normal.
Et 71 ans de travailler, c'est pas ce qui nous attend tous. Hein.
Mais je pense que moi j'attendrai de vous voir quand vous aurez 71 ans. Et je crois que beaucoup de retraités...
J'attends aussi.
Nous aussi, on attend de voir de Morand.
Oui, voilà, moi je pense d'ailleurs, on peut
J'espère
faire...
Mais je
suis convaincu que compte tenu de votre pertinence, de votre vivacité intellectuelle, vous aurez les capacités à servir votre pays bien au-delà de 71 ans.
Merci Jean-Paul Delevoye, monsieur le haut-commissaire à la réforme des retraites, d'avoir été au micro d'Inter.